Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Genèse 22, versets 7 et 8. Alors Isaac adressa la parole à son père, Abraham, et dit « Mon père !» Il lui répondit « Me voici, mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ensuite, le second texte de la prédication, tiré d'Exode au chapitre 12, des versets 1 à 13.
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. »
Ensuite, le troisième texte de la prédication tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 1, des versets 29 à 36. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas, afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu. »
Livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.
Un agneau tout seul, sans berger et sans troupeau, meurt, comme une personne sans le Saint-Esprit qui le guide dans la parole de Dieu qui est ouverte ne peut comprendre. C'est sous la conduite du Saint-Esprit que nous voulons comprendre cette prédication. Cette semaine, un des journaux les plus lus de Suisse titrait « La star de Pâques, c'est lui !» avec une photo d'un lièvre. Qui lèvera ce lièvre? C'est une grossière erreur, voire même une injure, car le lièvre est un symbole païen qui représente la fécondité. Posons un lapin à ce monde qui mélange tout et termine par dire que c'est une fête chrétienne. Pâques est le rappel le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est ce jour-là qu'est né, entre guillemets, le premier humain qui ne meurt plus. Cet humain est appelé l'agneau de Dieu. C'est un autre nom de Jésus, le Messie, de celui qui est venu ôter le péché du monde. Un agneau qui a été annoncé, qui s'est manifesté et qui s'est élevé. C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. L'agneau de Dieu annoncé nous fera tourner les regards vers l'Ancien Testament. L'agneau de Dieu manifesté vers les évangiles et l'agneau de Dieu élevé vers l'Apocalypse. Commençons donc par l'agneau de Dieu annoncé. La parole de Dieu annonce l'agneau de Dieu petit à petit, d'abord de manière voilée, jusqu'à ce qu'une annonce claire de la souffrance du Messie soit annoncée pour le péché. Dès Genèse 3,15, Dieu annonce une descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent et qui blessera le talon de ce descendant. C'est la première allusion, encore bien voilée, de l'agneau de Dieu. Ensuite, en Genèse 3,21, Dieu donne des habits de peau à Adam et Ève suite à leur péché. Cela indique la mort d'un animal. C'est une deuxième allusion à l'agneau de Dieu. En Genèse 4,4, Abel offre le premier-né de son petit bétail. L'Éternel porte un regard favorable à son offrande. C'est la troisième allusion à l'agneau de Dieu, premier-né, qui est une offrande qui amène le regard favorable de Dieu. En Genèse 8,20, après la destruction du premier monde par le déluge, et au tout début du nouveau monde, Noé offre des bêtes pures par un sacrifice. C'est la quatrième allusion à l'agneau de Dieu qui amène Dieu à ne plus vouloir maudire la terre à cause de l'homme et qui établit une alliance avec la descendance de Noé. Mais jusque-là, aucune mention d'agneau directement. C'est au chapitre 22 de Genèse que nous trouverons le terme « agneau » pour la première fois. Il est mentionné dans une discussion entre un père et son fils.
Alors je vous relis le texte que nous avons déjà entendu tout à l'heure, dans Genèse 22. Alors, Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit « Mon père ». Il lui répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Abraham va construire l'autel, y mettre le bois, ligoter son fils et le coucher dessus, prêt à l'égorger. Abraham va construire l'autel, y mettre le bois, ligoter son fils et le coucher dessus, prêt à l'égorger. Et là, Dieu l'arrête et lui fait voir un bélier qui est en fait cet agneau pourvu par Dieu. Dieu l'arrête et le fait voir un bélier qui est en fait cet agneau pourvu par Dieu. Imaginez un instant que vous êtes à la place d'Isaac. Il est sur le point de mourir et un animal est sacrifié à sa place. C'est ce que l'on appelle la substitution. La substitution. Se substituer, c'est prendre la place ou se mettre à la place pour jouer le même rôle en s'identifiant. Ça, c'est la substitution. Le bélier est mort à la place d'Isaac. C'est une claire allusion à l'agneau de Dieu qui va mourir à la place des enfants des hommes. Nous pouvons encore relever bien des éléments dans ce récit du sacrifice d'Isaac demandé, mais nous nous concentrons aujourd'hui sur ce qui pointe vers l'agneau de Dieu. Ainsi, nous pouvons voir que c'est le descendant de la promesse qui est demandé en sacrifice. Celui qui faisait toute la joie de son père, et que c'est le père lui-même qui allait offrir le sacrifice. Je vous laisse faire les liens et vous encourage à méditer sur ce récit en cette période de Pâques. La deuxième mention de ce terme « agneau » se trouve dans Genèse 30-32, lorsque Jacob négocie son salaire avec son beau-père Laban. Alors je ne m'y arrêterai pas aujourd'hui, car c'est la troisième mention de ce terme qui nous intéressera le plus. Et cette troisième mention se trouve dans Exode 12. Alors un premier petit détail au verset 2 que nous avons entendu tout à l'heure, Dieu dit à Moïse que ce mois où l'agneau est sacrifié et le peuple libéré sera à partir de là le premier mois de l'année. C'est comme si Dieu disait, cet événement est d'une telle portée historique que vous devez réorganiser votre calendrier en conséquence. Un agneau d'un an, donc plein de vie, mâle et sans défaut, entrait dans la famille le 10 de ce premier mois pour 4 jours. Un agneau d'un an, donc plein de vie, mâle et sans défaut, entrait dans la famille le 10 de ce premier mois pour 4 jours. Pendant ces 4 jours, il était nourri, observé, choyé et petit à petit adopté par la famille comme étant un des leurs. Le 4e jour, il était immolé. Immolé veut dire faire mourir en sacrifice. C'est ça immoler, c'est faire mourir en sacrifice. L'agneau était donc mis à mort et l'on prenait de son sang pour le mettre sur les 2 poteaux verticaux et le linteau horizontal, qui fait le linteau, c'est ce qui fait le haut de la porte. Et il est dit dans Exode 12 au verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. » Passer par-dessus, c'est la signification du terme Pécha, qui a donné le mot Pâques. Certains soulignent que ce terme signifie encore plus précisément étendre ses ailes par-dessus et protéger. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, ici sous les ailes du Tout-Puissant. À la vue du sang de l'agneau sur le bois de la porte, le premier-né de la maison restait en vie. l'agneau avait en quelque sorte payé pour lui, car les Hébreux méritaient autant le jugement que les Égyptiens face à leur péché. L'agneau devenait ainsi le rédempteur. Rédempteur, celui qui rachète, qui paye à la place du premier-né, qui ainsi était protégé de la mort. Le rédempteur. Les premiers-nés d'Israël ont survécu parce que des agneaux sont morts. L'agneau était rôti au feu, aucun os ne devait être brisé, il devait être mangé totalement et aucun reste ne devait subsister, sinon il fallait le brûler. L'agneau qui avait sauvé l'aîné de la famille avait totalement disparu le lendemain de son sacrifice. Si Genèse 22 avec Isaac soulignait la substitution qui prenait la place, Exode 12 démontre la rédemption qui paye pour l'autre, avec bien des détails qui seront tous accomplis par Christ, comme nous le verrons. Ensuite, nous trouvons l'agneau dans l'Ancien Testament un peu plus loin en lien avec les sacrifices que l'Éternel demande et que Moïse transmet au peuple. Chaque matin et chaque soir, un agneau devait être sacrifié dans le lieu où l'Éternel demeurait au milieu du peuple, dans le tabernacle puis dans le temple. Donc un agneau le matin et un agneau le soir de chaque jour. Au début de chaque mois, avec d'autres animaux, il fallait aussi sacrifier 7 agneaux d'un an sans défaut. Chaque début de mois, 7 agneaux d'un an sans défaut. Et à chaque grande fête, de nombreux agneaux étaient offerts en sacrifice. Sans compter les holocaustes, les sacrifices pour le péché personnel, les sacrifices de réparation et les sacrifices d'action de grâce où des agneaux étaient aussi sacrifiés. Alors ce sont des centaines d'agneaux par année qui étaient offerts en sacrifice et qui rappelaient au peuple son besoin de purification, le besoin d'effacer le péché par le sang, d'expier la faute. L'expiation, c'est subir les conséquences de manière à ce que tout soit payé. Tous ces sacrifices, en fait, rappelaient au peuple son besoin de purification, le besoin d'effacer le péché par le sang, d'expier la faute. Vous comprenez maintenant que l'expiation, c'est subir les conséquences de manière à ce que tout soit payé. Et les agneaux faisaient donc l'expiation des péchés des Israélites. Et voici que nous arrivons au prophète, et là, Ésaïe nous parle du Messie souffrant. Un des textes les plus parlants à propos de l'agneau de Dieu est le chapitre 53 d'Ésaïe. Voici ce qui est dit au verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Si jusqu'ici l'agneau était une image de celui qui allait se substituer, accomplir la rédemption et l'expiation, dans ce chapitre 53, c'est l'agneau de Dieu lui-même qui est annoncé. Il ne s'agit clairement plus d'un animal, mais d'un homme. Alors continuons dans le même chapitre. Au verset 9. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Cet agneau qui n'ouvre pas la bouche est mis dans un tombeau. Dans un tombeau. Il prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Mais c'est un mystère indéchiffrable sans Jésus-Christ. Cet agneau qui n'ouvre pas la bouche est mis dans un tombeau. Il prolongera ses jours et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. C'est un mystère indéchiffrable sans Jésus-Christ. Mais l'agneau de Dieu s'est manifesté. C'est notre deuxième point. L'agneau de Dieu manifesté. Un homme envoyé par Dieu, né de parents âgés et stériles, proclame très clairement à ceux qui avaient en tête tout ce que nous venons de voir dans l'Ancien Testament ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quelle affirmation extraordinaire lorsque l'on est conscient du contexte dans lequel elle est proclamée. Jean-Baptiste dit cette phrase en voyant Jésus. Et cela est répété deux fois pour être bien certain que personne ne se méprenne sur l'identité de celui qu'elle présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui que le Père a envoyé, son Fils bien-aimé, objet de toute son affection. Cela ne vous rappelle-t-il pas Abraham avec Isaac? Jésus est celui qui a pris la place de tous les Isaac, de tous les enfants d'Abraham par la foi, de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Jésus est celui qui a pris la place de tous les Isaac, de tous les enfants d'Abraham par la foi, de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Jésus a totalement accompli ce que l'agneau de Pâques, appelé agneau pascal, a annoncé. Comme nous sommes le dimanche de Pâques, permettez-moi de voir cela avec vous de façon un peu plus détaillée. Alors en Exode 12, l'Éternel demande au peuple de prendre un agneau le 10e jour du mois dans les foyers, vous vous souvenez. Le 10e jour du premier mois, Jésus entre à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle le jour des rameaux. C'est Jean qui complète les trois autres témoignages de l'Évangile qui nous permet de comprendre cela. Ah, je vous l'explique, hein. Le 15 du premier mois, c'est la Pâque, qui commence le 14 au soir, donc le 15. Jean 12, 1 nous dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. 15 moins 6 égale 9. 6 jours avant la Pâque, c'est donc le 9. Et au verset 12, dans Jean 12, il est dit, le lendemain, c'était donc le 10 du premier mois, et c'est ce jour-là que Jésus est entré à Jérusalem sous les cris d'une foule disant « Hosanna !» Hosanna veut dire « Sauve » ou « Sauve, nous t'en prions !»« Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Le 10 du premier mois, l'agneau de Dieu est entré dans Jérusalem. L'agneau de Dieu, comme l'agneau pascal, était sans défaut. Il était sans défaut. Jésus-Christ n'a pas péché une seule fois dans sa vie. Il était sans défaut et sans tache, comme le dit Pierre d'ailleurs, dans 1 Pierre 1,19, où il parle de Jésus-Christ de ce sang qui nous purifie, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. L'agneau de Dieu, comme l'agneau pascal, était un mâle. L'agneau de Dieu, comme l'agneau pascal, était un mâle. Jésus-Christ est le nouvel Adam, duquel sort toute l'humanité. L'agneau de Dieu, comme l'agneau pascal, est plein de vie. C'est pour ça qu'on prend un agneau d'un an. Quand on prend un agneau d'un an, ça veut dire qu'il est plein de vie. L'agneau de Dieu, comme l'agneau pascal, est plein de vie. Jésus-Christ est à la fleur de l'âge, avec toute sa vigueur. Il n'est pas en fin de vie lorsqu'il donne sa vie pour nous sauver. L'agneau de Dieu, comme l'agneau pascal, disparaît complètement le même jour qu'il a été sacrifié. Jésus-Christ, le même jour, a été mis au tombeau, plus de traces visibles de son corps. L'agneau de Dieu, comme l'agneau pascal, n'a eu aucun os brisé. Aucun os brisé. Jésus-Christ n'a eu aucun os brisé, contrairement à ce qui se faisait couramment aux crucifiés. C'est Jean qui nous le dit. Dans Jean 19, les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui était crucifié avec lui. Arrivés à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Cela est arrivé pour que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Le sang de l'agneau pascal était aspergé sur les poteaux verticaux et le linteau horizontal des portes. On traçait en fait déjà une croix par ce geste. Les poteaux verticaux et le linteau horizontal. En faisant ce geste, on traçait déjà une croix. Jésus-Christ verse son sang sur une croix avec un bois vertical et un horizontal. En entrant chez eux par la porte marquée par le sang de l'agneau pascal, les Hébreux étaient en sécurité. Ils entraient par une porte qui était marquée par le sang de l'agneau pascal. Alors nous comprenons mieux encore les paroles de Jésus qui dit « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » L'apôtre Paul nous permet sans ambiguïté de comprendre que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, notre agneau pascal qui ôte le péché du monde. Il dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Si Jésus est l'agneau de Dieu, nous comprenons pourquoi, dans le repas qui rappelle le passage par-dessus le pécheur étant protégé par le sang de l'agneau, il n'y a plus d'agneau à manger. Si Jésus est l'agneau, il n'y a plus d'agneau à manger. Même les Juifs actuellement ne mangent plus d'agneau, car ils ne peuvent plus sacrifier au temple. Et c'est voulu par Dieu, car l'agneau de Dieu a été sacrifié une fois pour toutes. Nous buvons la coupe, nous mangeons le pain, mais nous ne sacrifions plus d'agneau, car le sacrifice de l'agneau de Dieu était parfait. Il a été fait une fois pour toutes. Voilà ce qu'il dit dans Hébreux 10:10. Hein. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Si aujourd'hui, face à la perfection de Jésus-Christ, tu te rends compte que tu es pécheur, que vas-tu faire? Comme les Égyptiens qui se moquaient de Dieu, ou vas-tu prendre au sérieux l'œuvre de l'agneau de Dieu? Et pour chacun qui m'écoute, lorsque tu commets un péché, que fais-tu? Vas-tu barricader ta maison avec ton béton armé de l'auto-justification qui n'a aucun pouvoir face au jugement? Ou vas-tu courir humblement au travers de la porte de Christ par la repentance et la foi pour te retrouver en sécurité? L'agneau de Dieu s'est manifesté. Il a pleinement accompli ce qui était annoncé. Tous les autres agneaux de l'Ancien Testament sont morts et le sont restés. Mais pas lui. C'est le seul sacrifice qui est ressuscité. Et nous nous souvenons doublement aujourd'hui de cette résurrection. Premièrement parce que c'est dimanche. Et que le premier jour de la semaine est un rappel hebdomadaire de la résurrection de l'agneau de Dieu. Et deuxièmement, c'est Pâques. Pâques qui nous rappelle chaque année l'époque à laquelle l'agneau de Dieu est mort et ressuscité. S'il est ressuscité, il est vivant. Mais que fait-il? Quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, c'est le livre de l'Apocalypse qui nous permet de souligner ces caractéristiques de l'agneau de Dieu d'aujourd'hui. Et c'est notre troisième point, l'agneau de Dieu élevé. Nous allons observer sept caractéristiques de l'agneau dans l'Apocalypse. La première, l'agneau a été immolé. Ce n'est pas un agneau comme les autres. Il est vivant, mais a été sacrifié. Jésus sera reconnaissable aux marques de son sacrifice pour les pécheurs repentants. Voici ce qui est dit dans Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu étais immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Le fait que l'agneau soit immolé est notre assurance. Le prix de son rachat a été accepté, il est notre sécurité. Qu'est-ce que cela change dans notre vie ? Nous n'avons pas à chercher à payer pour la peine que méritent nos péchés, simplement nous repentir et réparer ce qui est possible comme fruit d'une vraie repentance. Deuxième caractéristique, l'agneau est un berger. L'agneau est un berger. Il prend soin, amène aux sources de la vie et essuie les larmes des yeux de ceux qui ont leur robe lavée et blanchie par le sang de l'agneau. Apocalypse 7 nous dit ceci, verset 17, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Ailleurs, il est dit, « Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Un agneau berger. C'est bien un berger qui a été agneau qui peut le mieux comprendre ce que vit son troupeau. Quelle grâce d'avoir un berger si proche de nous. Qu'est-ce que cela change dans notre vie? Nous pouvons tout dire dans nos prières à notre berger qui comprend ce que nous vivons. Une troisième caractéristique, l'agneau règne. L'agneau règne. À lui l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Jésus est assis à la droite du Père et il reviendra pour juger le monde en tant que monarque absolu. Apocalypse 5, 8. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums, qui sont les prières des saints. En fait, en servant l'agneau de Dieu, nous sommes du côté du roi de gloire qui va se manifester. Tous ceux qui se moquent de nous maintenant ou qui nous tentent de le laisser tomber ne pourront que plier le genou et le reconnaître. Restons-lui fidèles, cela vaut la peine. Qu'est-ce que cela change dans notre vie ? Personne n'est roi, ni dans son couple, ni dans sa famille, en tant que parent ou en tant qu'enfant, ni même dans sa vie. C'est l'agneau, le roi. Donc c'est lui qui dirige. Quatrième caractéristique, l'agneau est le maître de l'histoire. L'agneau est le maître de l'histoire. C'est lui qui ouvre les sceaux et qui a le livre de vie. Apocalypse 6, verset 1, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Apocalypse 13, 8, « Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. » Rien n'arrive en dehors du contrôle de l'agneau, qui a racheté son peuple. Chacun des siens a son nom écrit dans son livre de vie. Et si ton nom y est écrit, quel réconfort! Qu'est-ce que cela change dans notre vie? Nous pouvons faire face à toutes les circonstances, sachant que tout est sous contrôle, même si nous ne le voyons pas et ne le sentons pas. Cinquième caractéristique, l'agneau libère son peuple avec la force d'un lion. L'agneau libère son peuple avec la force d'un lion. Il est vainqueur par son œuvre purificatrice. Apocalypse 5, verset 5. L'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Le verset suivant parle de cet agneau, justement. Et plus loin, chapitre 12, « Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il était précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Plus loin encore, ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Oui, c'est vrai, nous pouvons perdre notre vie physique, mais qui de toute façon, un jour, s'arrêtera. Mais personne ne peut nous arracher de la main de l'agneau. Soyons fiers de notre héros, notre Seigneur et notre Roi. Qu'est-ce que cela change dans notre vie ? Jésus-Christ libère. C'est vers lui que nous puisons nos forces pour être libérés de tout ce qui peut nous asservir. Sixième caractéristique, l'agneau est loué par ses fidèles. L'agneau est loué par ses fidèles. Fini l'humiliation. Il est maintenant élevé et il viendra bientôt manifester sa gloire de façon visible à tous. Apocalypse 15, verset 3. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. C'est la fête au ciel, dans ce paradis où se trouve le brigand qui a reconnu Jésus sur la croix. C'est la joie de louer celui qui sauve, qui guérit, qui guide, qui pourvoit nos besoins éternels et qui ne permet à aucun péché d'entrer dans son royaume. Quelle propreté, quel accueil nous allons avoir et nous allons rejoindre tous ceux qui acclament le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Roi des nations, l'Agneau de Dieu. Qu'est-ce que cela change dans notre vie? Avons-nous au moins une fois loué l'agneau pour ce qu'il a fait la semaine qui vient de s'écouler? Qu'allons-nous faire les jours de la semaine qui commence aujourd'hui? Et pour terminer ces caractéristiques, voici la septième. L'agneau va vivre une grande fête, les noces de l'agneau. L'agneau va vivre une grande fête, les noces de l'agneau. Jésus disait, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Mais là, ce sera le moment et ce sera grandiose. Apocalypse 19, verset 7 nous dit, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » L'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Pour participer à ces noces de l'agneau, il faut un habit de noces, une robe reçue de l'agneau, la robe de justice que nous recevons lorsque nous nous repentons et que nous croyons en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela change dans notre vie? Nous pouvons dès à présent nous réjouir des bonnes choses qu'il nous donne. Mais s'il faut renoncer à quelques plaisirs éphémères pour celui qui nous prépare une fête gigantesque, cela en vaut la peine. Dans l'Ancien Testament, l'agneau était annoncé. Les évangiles nous présentent l'agneau de Dieu étant venu sur cette terre. Les épîtres nous expliquent son œuvre et l'Apocalypse nous ouvre une fenêtre sur son élévation. Ayant les pieds sur terre, et pratiquant les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Avons-nous la tête au ciel, nous réjouissant de l'élévation de l'agneau de Dieu? Ou pensez-vous dans votre tête, c'est bien sympa, mais c'est des fabulations, qui voudraient mieux simplement profiter de la vie et se laisser aller à tous nos désirs? Alors si la sortie d'Égypte, la venue de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, et tout le témoignage de l'Église ne sont que des fake news, donc des mensonges? Alors oui, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais si c'est vrai, et que l'année 2020 est en lien avec un changement de calendrier à cause de la plus grande libération de l'histoire, alors il vaut mieux appliquer le sang de Christ aux portes de nos cœurs, nous réjouir de vivre ce temps de Pâques qui nous rappelle l'œuvre de Christ et nous réjouir de son retour pour vivre ensuite éternellement dans la joie des noces de l'agneau. As-tu appliqué le sang de Christ sur la porte de ton cœur? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu as préparé la venue de l'agneau de Dieu depuis le début de l'histoire de l'humanité. Lorsque nous ouvrons ta parole et que nous l'étudions, nous n'avons aucune excuse. Tu as annoncé dès le début ce sacrifice et tu l'as accompli en Jésus-Christ. Ô Éternel, en ce temps de Pâques, je te prie que nous puissions nous réjouir de cette résurrection qui manifeste l'acceptation de ce sacrifice de l'agneau de Dieu. J'aimerais te prier que chacun ici puisse être conscient de la grâce, de saisir cette joie de pouvoir entrer dans le salut que Jésus-Christ nous donne, celui qui nous protège, qui met son aile par-dessus nous, alors que nous méritons le jugement de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te prions de nous donner cette grâce d'être fiers de toi, et que ceux qui sont tes enfants parmi nous, ceux qui désirent te servir, ceux qui sont transformés par la merveilleuse grâce de ton amour appliquée par ton Saint-Esprit, eh bien que nous puissions ensemble t'honorer, te louer et nous réjouir de ces noces qui se préparent. Seigneur, merci parce que toi, tu as aussi été dans le confinement, dans ce tombeau. Mais tu en es sorti vivant et tu es vivant aujourd'hui encore. Et nous nous en réjouissons. Sois loué, sois béni et que ce temps de Pâques soit un temps de bénédiction pour chacun d'entre nous. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.